Shalom Bourgogne.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Marie.
Bienvenue dans cette nouvelle émission des Veilles littéraires. Aujourd'hui, on a choisi de mettre en avant des livres écrits par des femmes, que ce soit des livres contemporains, des classiques, des réécritures, des pièces. C'est une émission qui va sûrement revenir puisque ça nous tient à cœur. Et aujourd'hui, on a choisi de vous parler de Colette, de Marguerite Yourcenar et d'Amélie Nothomb. Est-ce que tu veux que l'on parle de Colette pour commencer?
Donc Colette, c'est une écrivaine de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Colette, c'est une danseuse de cabaret. Elle a autrefois appartenu à la bourgeoisie, mais c'est un temps qui est révolu au moment où elle écrit La Vagabonde, dont on va vous parler plus longuement. Et justement, La Vagabonde, c'est ses débuts en tant que danseuse et en tant que femme rejetée par la société bourgeoise auquel elle appartenait avant, comment elle revoit ses anciens amis qui désormais la jugent et qui la voient comme une fille à mœurs légères finalement.
Ouais. Moi j'ai découvert La Vagabonde il y a vraiment 3 semaines, donc c'est assez récent et j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi d'en parler aujourd'hui, puisque c'est un roman qu'on attribuerait à la liste des romans classiques, oui, qu'on étudie scolairement aujourd'hui, mais qui, je trouve, peut nous parler beaucoup à nous, lecteurs plus jeunes.
Et peut-être
jeunes.
Aussi à nous, jeunes gens, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est vrai que dans le sens où elle est en quête de sa propre liberté, elle se pose des questions entre sa carrière, entre l'amour, justement.
Et ça change de l'image des femmes qu'on a souvent dans les... dans les romans classiques écrits par des hommes.
Oui, c'est ça. Et surtout, ça change l'image des femmes de cette époque aussi, puisqu'elles cherchent à conquérir son indépendance à travers la danse et le spectacle. Et donc, c'est assez chouette, d'autant plus la partie presque autobiographique du roman.
Oui, il y a des grandes similitudes avec sa vie. Mm-hmm. Et ça reste une fiction avant tout.
Oui, quand même.
Et Max, encore. Jusqu'à quand le trouverai-je dans mes jambes, celui-là? Et Max. Alors moi, je n'existe que pour me soucier de cet encombrant rentier. La paix, Seigneur, la paix. Assez de chichi, assez d'idylle, assez de temps perdu, assez d'hommes. Regarde-toi, ma pauvre amie, regarde-toi. Que vas-tu faire dans cette galère? Pas même, dans ce bateau lavoir, solidement amarré, où l'on blanchit une lessive patriarcale. Si tu étais capable, au moins, de te payer un bon petit béguin pour ce grand gars-là. 15 jours, 3 semaines, 2 mois, et puis adieu. On ne se doit rien, on s'est bien réjouis l'un de l'autre.
Donc là, justement, on la voit en train de se poser des questions par rapport à son amour pour Max, par rapport à ce qu'elle doit faire en tant que danseuse, puisque elle ne peut pas poursuivre, elle ne peut pas être à la fois la femme donc d'un homme bourgeois et une danseuse, puisque ça nuirait à sa réputation. Et oui, donc c'est assez intéressant à voir, et justement elle parle du patriarcat, elle parle du fait qu'elle doit se détacher des hommes pour pouvoir avancer et grandir en tant que femme, prendre son indépendance.
Oui, surtout que le théâtre a signifié pour elle, après la fin de son premier mariage, une liberté qu'elle n'avait pas eue jusqu'alors, et un nouveau bonheur qu'elle ne connaissait plus depuis bien des années. Et donc l'arrivée de Max dans sa vie, qui est à l'origine... comme on l'a dit, un admirateur du théâtre où elle travaille. C'est vrai que ça bouleverse un peu tout son quotidien et elle ne sait plus forcément où se situer, que faire de sa vie.
Le théâtre, c'est un motif qui est récurrent dans le livre, et c'est vrai que quand elle parle du théâtre, on ressent cette joie qu'elle ressent sur scène, mais on s'aperçoit qu'elle est quand même pleine de doutes, pleine d'incertitudes. Et donc, le spectacle, elle sait que c'est lié à un inconfort de vie, elle en est consciente. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'elle cherche peut-être, dans l'affection de Max, un moyen de se ranger, un moyen d'avoir une vie plus facile, en quelque sorte, plus confortable.
Oui.
Et donc, c'est assez intéressant de voir à quel point elle grandit, en fait, à travers ce livre, finalement.
Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage, de ses contradictions? Est-ce qu'en tant que lectrice, tu as eu du mal à t'identifier? Est-ce que tu as bien aimé... que ce soit le dénouement ou même l'histoire, qu'est-ce que tu en as pensé
Alors moi justement, j'ai adoré le personnage de Renée Néré, que je trouve très réel en fait. Tout d'abord parce qu'elle s'observe beaucoup. On a un autre motif récurrent que le théâtre, c'est les miroirs.
Oui.
Elle passe son temps à se chercher, à s'observer, à voir si elle correspond à la figure qu'elle a d'elle-même. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve que c'est très facile de se mettre dans cette position-là, personnellement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais...
Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont elle réfléchit sur elle-même. Et on comprend très bien ce qu'elle ressent, que ce soit les envies de liberté, mais aussi l'envie d'être aimée. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, ce sont ses amis. On a plein de petits personnages qui gravitent autour d'elle, et qui, que ce soit son compagnon de théâtre, ou son ami, ou les gens qu'elle connaissait de son ancienne vie.
J'ai adoré le personnage de la Jadin, par exemple, ouais. Que je trouve absolument génial.
Je m'en doutais.
Petit personnage insolent et fier, et qui finalement est obligé de retourner au théâtre, mais qui profite de ses amants et de ses admirateurs. Je trouve ça assez chouette. Elle est pour moi la figure la plus indépendante du roman, finalement. Mm-hmm. Puisqu'elle prend ce qu'il y a à prendre, et elle finit toujours par revenir au théâtre, et je trouve ça vraiment beau, personnellement.
Ouais. En tout cas, moi, j'ai adoré la fin.
Ouais.
Donc, on va pas vous la dire, parce que c'est un peu de la triche, mais peut-être que ça donnera envie d'aller lire, ou d'écouter l'audio-livre.
Donc la deuxième autrice qu'on voulait vous présenter ce matin, c'était Marguerite Yourcenar, donc autrice plutôt du milieu du XXe siècle. Mm-hmm. Bon, même si moi, le livre dont je vais parler date de 1938, on est quand même sur quelque chose de plus contemporain que Colette. Marguerite Yourcenar, elle est aussi dans la réécriture des mythes, finalement, pour faire référence à notre précédent épisode.
Oui.
Moi, je vais vous parler donc des Nouvelles Orientales, qui est la réécriture de plusieurs mythes du folklore méditerranéen et oriental, avec comme motif très récurrent, c'est-à-dire une mort symbolique dans toutes ces nouvelles. Mmh. Donc, je vais vous parler de deux nouvelles sur les huit qui m'ont beaucoup plu. Donc, tout d'abord, comment Wakfo fut sauvé. Donc, on est en Chine médiévale, un vieux peintre Wakfo et son disciple errent de village en village, et ils sont un jour arrêtés par la milice impériale. L'empereur, qui a grandi toute sa vie enfermé au palais jusqu'à ses 16 ans, découvre le monde et s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout aux toiles du vieux peintre qui représente le monde avec tant de beauté et tant de grâce et tant d'élégance. L'empereur en est déçu, terriblement, et donc il éprouve une vive rancœur contre le vieux peintre. Donc il est condamné à avoir les yeux brûlés, les mains coupées, après avoir terminé une peinture commencée dans sa jeunesse. Le peintre commence à peindre cette toile, et alors, il se passe quelque chose de magique, de mystique. Il parvient à s'enfuir par la peinture. Et d'accord. Donc, ce moment est très lyrique, très joli, puisque justement, on embarque avec Wangfo dans la peinture, dans la créativité, dans la création, et on observe comment, même emprisonné, la création peut nous aider à s'élever. Et donc, moi, j'ai adoré cette nouvelle pour plein de raisons, déjà le motif de l'art. Mmh. Le fait que l'art nous libère, c'est quelque chose d'assez génial.
Moi, je les ai pas lues, mais elles sont assez courtes, les nouvelles, et c'est un recueil qui reprend.
Oui.
Est-ce qu'il y a une suite entre les nouvelles ou
non,
pas?
Non, il n'y a pas de suite du tout. C'est vraiment, vraiment une nouvelle par mythe. Justement, le mythe d'après dont je vais vous parler, c'est un mythe indien.
D'accord.
Donc là, on était sur un mythe chinois, là, on est sur un mythe indien. Donc c'est très oriental. Et justement, je trouve que c'est hyper intéressant d'offrir ce point de vue à des occidentaux, puisque nous, c'est des mythes qu'on ne connaît pas, avec lesquels on n'a pas grandi.
Oui.
Et c'est vraiment génial donc de découvrir ces personnages du folklore oriental.
Mais ce sont des choses que Marguerite Yourcenar fait beaucoup, que ce soit, il me semble qu'elle a traduit les poèmes de Sappho par exemple, oui. Et donc elle reprend des choses que nous on n'a pas l'habitude de voir chez nous.
Donc justement, le mythe indien, Kali décapité. Donc Kali, c'est une déesse à la beauté sans égale, elle est jalousée des autres dieux. Et donc par jalousie, ces dieux la décapitent.
D'accord.
Donc il regrette cet acte et donc il lui redonne la vie dans le corps d'une travailleuse du sexe. Et cette vie de débauche dans laquelle elle est malmenée, elle est touchée par des hommes, transforme Kali en tueuse en série.
D'accord. Et tu les as lus assez jeune ou parce que ça aborde quand même des thèmes
Non, je les ai lus en première année de licence.
D'accord.
Donc oui, non, on ne lit pas ça quand on est jeune. Hein.
Oui, une tueuse en série, oui.
Et donc, dans cette vie de tueuse en série, elle rencontre un jour un sage dans une forêt qui lui apporte toutes les réponses. C'est-à-dire, nous sommes tous incomplets, dit le sage. Nous sommes tous partagés, fragments, ombres, fantômes, sans consistance. Nous avons tous cru pleurer et cru jouir depuis des séquelles de siècles. Donc la mort symbolique de la déesse déchue fait comprendre une dualité entre la quête constante de soi et aussi cette chose, cette humanité imparfaite, en fait. Je sais même pas comment l'expliquer parce que l'histoire, elle a vraiment une tonalité très tragique, très tragique. Et donc, le fait que ce soit un mythe qui nous enseigne qu'on n'est jamais sûr de rien et que finalement...
Oui. Est-ce que tu sais comment elle a eu l'idée de réunir toutes ces nouvelles dans un seul livre?
Alors, il me semble que c'est après un voyage, tout simplement. Elle a découvert ces mythes et elle a décidé d'en parler, d'en faire des nouvelles, de les réécrire.
Ouais, c'est vrai que moi, je connaissais pas du tout, puisque moi, de Yourcenar, j'ai seulement lu Les Mémoires d'Adrien, qui, pour ceux qui préfèrent lire des romans, c'est un roman historique peut-être un peu plus récent. Il me semble qu'il a été publié en 1951. Et donc, ce sont les pseudo-mémoires de l'empereur Adrien, de l'empereur romain. Et ce livre, c'est comme une longue lettre écrite par l'empereur à son petit-fils adoptif Marc Aurel, qui régnera après lui. Et c'est toute une méditation, pareil, on retrouve beaucoup ça chez Marguerite Yourcenar, j'ai l'impression, de réflexion sur la vie, sur la mort. Et là, il va notamment compter son règne, les triomphes militaires, donc pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est assez complet, c'est très long, mais c'est bien détaillé. Il me semble que Marguerite Yourcenar a fait de nombreuses recherches pour l'écrire, mais ça parle aussi d'histoire d'amour, d'intérêt pour la poésie, etc., et surtout de philosophie. Et voilà, c'est vraiment très bien reconstruit et c'est agréable à lire puisqu'on a accès à beaucoup d'angles de la personnalité des personnages.
Et surtout, ça permet de connaître un peu mieux l'histoire romaine. Moi, de mon point de vue, moi, je l'ai beaucoup apprécié le livre parce que justement, l'histoire romaine, elle n'est plus tellement enseignée, au collège, je crois, ou même au lycée. Et je trouve ça assez chouette, du coup, de reconstruire l'histoire d'un empereur pour mieux connaître et cerner les enjeux politiques donc des cités romaines à cette époque.
Oui, c'est ça. Surtout que Adrien, on le connaît pour le mur d'Adrien. Mm-hmm. Et au final, dans le livre, c'est un petit passage. Enfin, c'est quand même une grande œuvre dans sa vie, mais...
Et surtout, je pense qu'il apparaît beaucoup plus sensible que l'histoire le fait ressortir au travers des mémoires d'Adrien.
C'est un vrai personnage, oui.
J'imagine que ça, c'est lié au fait que c'est très romancé et que ça aide la narration, mais c'est assez chouette, justement, de voir que c'est un personnage qui a des sentiments, qui ressent les choses aussi, et pas juste un bout de notre histoire.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages qui sont toujours... pour nous, c'est des grandes personnes qui ont vécu il y a de cela vraiment beaucoup d'années, et on se rend compte que c'était des personnes comme nous qui ont ressenti des choses... qui ont fait la guerre,
qui ont été amoureux.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça fait redescendre un peu les personnages à notre échelle et pour mieux les comprendre, même si bien sûr ça reste un roman et ça reste de la fiction. Mais voilà, en tout cas, moi j'en ai beaucoup appris, plus que pendant des cours de civilisation romaine, puisque on ne peut pas tout aborder dans un cours en latin. Pour terminer, on voulait vous parler d'une autrice... plus contemporaine, qui est Amélie Nothomb. Qu'est-ce que tu as lu d'elle, puisqu'elle a écrit beaucoup de livres?
Alors moi, j'en ai lu plusieurs. J'ai lu Métaphysique des tubes, Stupeur et tremblement et Les Catilinaires.
D'accord. Moi, j'ai seulement lu Le Livre des Sœurs, un de ces derniers, je crois.
Ok. Je vais commencer par vous parler donc de Métaphysique des tubes. Tu trouves ça répugnant? À l'intérieur de ton ventre, c'est la même chose. Si ce spectacle t'obsède tellement, c'est peut-être parce que tu t'y reconnais. Crois-tu que ton espèce soit différente? Les tiens mangent moins salement, mais ils mangent. Et dans ta mère, dans ta sœur, c'est comme ça aussi. Et toi, que crois-tu être d'autre? Tu es un tube sorti d'un tube. Ces derniers temps, tu as l'impression glorieuse d'évoluer, de devenir de la manière pensante. Ah, de la matière pensante, mince. Ces derniers temps, tu as eu l'impression glorieuse d'évoluer, de devenir de la matière pensante. Foutaise. La bouche des carpes te rendrait-elle si malade si tu n'y voyais ton miroir ignoble? Souviens-toi que tu es un tube et que tube, tu redeviendras.
De quoi elle parle?
Alors là, elle parle des carpes qui gobent en ouvrant leur corps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'observe Amélie en étant plus jeune. Et se fait la réflexion que déjà c'est dégoûtant. Mais aussi que les carpes sont des tubes, qu'elle lui parle. Et qu'elle-même est un tube.
D'accord.
Donc, Métaphysique des tubes, c'est un roman autobiographique romancé. Les trois premières années de l'autrice, les trois premières années de sa vie, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'elle...
Une période où on n'a pas souvent de souvenirs.
C'est ça. C'est-à-dire qu'elle estime avoir des souvenirs de ce moment-là. Elle le revendique d'ailleurs. Et essaye de les reconstruire à travers donc, Métaphysique des tubes. Donc, ce roman, c'est sur la compréhension du monde pendant l'enfance. Elle naît au, on sait donc que l'autrice naît au Japon dans les montagnes du Kansai après avoir été qualifiée de plante par ses parents.
D'accord. Donc, très sympa.
Et donc elle dit se rappeler de cette discussion où ses parents l'imaginent en tant que plante justement. Donc le titre se rapporte à ce statut presque inerte puisqu'elle est considérée par tous comme un tube digestif inerte et végétatif dont les activités se bornent à ses besoins primaires. C'est-à-dire que ce serait comme ça qu'on définirait n'importe quel bébé, finalement. Oui. Et c'est ce qu'elle dit ici. C'est-à-dire qu'ici, le bébé, il ne pense qu'à manger, il ne pense qu'à dormir ou à faire ses besoins. Et c'est ce qu'elle dit ici.
Ça doit être très perturbant à lire. En tout cas, j'imagine un peu parce que dans le livre que j'ai lu, le livre des sœurs, et je m'en rends compte là que tu m'en parles, le début, et j'ai trouvé ça très bien fait, c'est aussi un personnage... qui se rappelle de moments de sa vie alors qu'elle a 2 mois.
Oui.
Et c'est exactement la même chose, et c'est très perturbant. Et il y a aussi le même rapport avec... oui, elle est passive, elle ne parle pas. Elle est vue comme ses parents par un petit être qui mange.
En fait, à Amélie Nothomb, je crois qu'il y a ce motif récurrent de la mémoire dans tous ces romans. En fait, elle parle souvent du coup de mémoire, de ce dont elle se souvient, de ce dont les autres se souviennent, de ce que les autres... pense d'elle en tant que, du coup, tube. Et donc, c'est... moi, j'ai trouvé ça assez chouette. Je l'ai lu au collège, donc je pense que ça peut se lire tôt.
Oui. C'est très court. Souvent, les très, très sont court. Pas très longs.
C'est très, très court. Enfin, court. Une centaine de pages, je crois.
Oui, oui c'est ça.
Et donc, moi, j'ai bien apprécié, puisque la fin se finit quand elle a 2 ans et demi et qu'elle n'est plus un tube, finalement. Une enfant normale. Et elle termine son roman avec ironie, puisqu'elle estimait ce statut privilégié de tube. Elle le divinifiait presque, en fait. Elle se sentait être supérieure lorsqu'elle était tube, lorsqu'elle D'accord. était matière inerte, finalement. Puisqu'en fait, elle avait l'impression d'avoir plus de compréhension du monde, plus de savoir et plus d'intelligence lorsqu'elle était inerte que lorsqu'elle devient donc un enfant normal qui commence à jouer... à lancer ses jouets parfois, à faire des crises. Donc on a des réflexions vraiment philosophiques sur le monde, parfois sur la religion.
D'accord.
De manière très simple, expliquée avec les yeux d'un bébé, finalement. Je trouve ça assez joli.
Ouais, c'est vraiment la partie que j'ai aimée dans le livre des sœurs. La première partie, pour ceux qui souhaitent le lire, la première partie, c'est vraiment concentrée sur les jeunes années de 2 sœurs, Tristan et Laetitia. Et elles s'éduquent ensemble parce qu'elles ont une place un peu particulière dans leur famille. Il y a un schéma familial totalement dysfonctionnel. Et donc le début, j'ai beaucoup aimé. Puis après, la deuxième partie, j'avoue que ça part dans tous les sens. Après, il faut aimer, puisque comme c'est assez rapide, il y a 100 pages. Mm-hmm. Évidemment, l'histoire, pour couvrir de 0 à 30 ans des 2 sœurs, il faut aller rapidement. Moi, ça m'a un peu perturbée. Il y a des choses, des passages que j'aurais aimé ne pas voir, mais... Ça se lit plutôt bien, donc je vous le recommande malgré tout.
Tu le recommandes même si t'as pas aimé.
Mais j'ai aimé la première partie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je trouvais le point de vue de... Prendre un point de vue d'une enfant, on pourrait penser qu'à 2 mois, on n'a pas de souvenirs. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment c'était rédigé.
Alors moi, je l'ai pas lu, mais je trouve ça intéressant, cette histoire des 2 sœurs, puisque dans Métaphysique des tubes, donc que moi, j'ai adoré... elle parle beaucoup de sa sœur, justement. Sa sœur, c'est un peu un motif récurrent. Et justement, sa sœur, qui est plus âgée, elle la voit comme cette enfant stupide qu'elle va devenir à la fin du roman. Et donc c'est assez amusant, en fait, je trouve, qu'elle ait réécrit un livre sur cette relation de sororité, en fait.
Oui, ça doit être des thèmes importants pour elle. Donc j'imagine que si vous avez aimé Métaphysique des tubes, vous aimeriez peut-être le livre des sœurs, ou inversement.
Pas peut-être. Probablement. Comment t'expliques justement le fait que t'aies moins aimé cette deuxième partie? C'est un changement dans le style, un changement dans la narration qui devient plus rapide, justement?
peut-être un changement dans, oui, peut-être dans la narration, mais ça va rapidement, comme j'ai dit, et après, c'est aussi, comme le texte est court, l'autrice essaye de couvrir beaucoup de sujets en très peu de pages, que ce soit cercle familial dysfonctionnel, anorexie, suicide, meurtre, deuil, et amour entre sœurs, changement de classe sociale. Enfin, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dures à lire, hein, mais justement, c'est fait trop rapidement, et je trouve que parfois, il y a certains sujets, comme notamment l'anorexie, qui est seulement évoquée. Je trouve que c'est pas forcément très bien fait. Ou oui, il y a plein de petites choses où je me disais, bon, il y a beaucoup trop de choses, et parfois, en un paragraphe qui fait deux lignes, on a un changement total de l'histoire, et j'avoue que je devais relire plusieurs fois pour me dire, oula, il y a eu un changement, et... Après, je peux comprendre les gens qui aiment que ça se passe rapidement, et qu'on comprenne, parce que là, c'est aussi le but du livre, c'est de passer de 0 à 30 ans, donc évidemment, il faut raconter. Et... c'était laborieux à lire, mais en soi, le dénouement, ça colle. Tout est... enfin, toute l'histoire, c'est quand même, j'ai trouvé stéréotypé, mais l'histoire est bien cadrée, c'est bien écrit. Enfin, il n'y a pas de problème dans l'intrigue, quoi.
T'es prêtrée métaphysique des tubes, alors.
Ça marche.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Donc, on vous a présenté différents ouvrages de différentes autrices. Si vous êtes intéressés pour les lire, ils sont dans les bibliothèques de Dijon. Voilà, donc Marie, que vas-tu lire ensuite? Une autre autrice, peut-être?
Alors, je ne sais pas ce que je vais lire encore, mais j'ai terminé Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui est une dystopie inspirée des guerrières de Monique Wittig. Et c'était génial. Ça traite d'écoféminisme, de dérèglement climatique, c'est vraiment sympa.
Super. Pour ma part, je viens de terminer l'autobiographie de la militante anarchiste Molly Steimer, Je n'ai rien à perdre que mes chaînes, où elle évoque la question de la patrie et de la place des femmes dans une patrie, justement, et dans un système patriarcal. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, personnellement. Donc,
ça marche, on note tes lectures. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et passez une bonne journée.
À la prochaine.
Pour Radio Shalom Bourgogne.